11h sur Radio Campus Tours, auditeurs, auditrices, bienvenue dans cette nouvelle émission La Méridienne. Alors, une émission La Méridienne en partenariat avec l'INSERM Grand Ouest. Et aujourd'hui, le sujet de l'émission portera sur les modèles d'études pour les biomédicaments inhalés. Alors, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, eh bien restez avec nous, puisque vous avez trois experts dans cette émission qui vont justement tout vous révéler sur ce sujet d'importance. Alors tout d'abord, bonjour Virginie Hervé.
Bonjour Mélissa.
Vous êtes maîtresse de conférences en immunologie et microbiologie. Merci à vous d'être ici dans cette émission. Merci également à Sandrine Le Guélec. Bonjour.
Bonjour Mélissa.
Vous êtes ingénieure, études et recherches DTF médicale.
Aérodrogue.
Merci. Excusez-moi, j'avais du mal à relire mes notes. Et enfin, bonjour Mike Pasteur. Vous êtes doctorant et votre thèse porte sur, je vous laisse nous le dire.
Ma thèse porte sur la création d'un nouveau modèle biomimétique pour l'étude des aérosols, les biomédicaments inhalés.
Merci à vous également d'être dans cette émission. Donc je précise que cette thèse est cofinancée par l'Université de Tours et le LabEx MabImprove.
En fait, le LabEx, c'est une structure, un rassemblement d'un laboratoire d'excellence. En fait, c'est l'abréviation de laboratoire d'excellence. C'est un rassemblement de chercheurs qui permet en fait de mutualiser les efforts sur une thématique de recherche.
Alors, vous êtes tous les trois membres du CEPR, c'est le Centre d'études des pathologies respiratoires. Vous faites partie de l'équipe 3 pharmacologie et médicaments inhalés. Donc cette émission, on le rappelle, porte sur les modèles d'études pour les biomédicaments inhalés. Alors avant d'en parler, peut-être que vous voudriez expliquer à nos auditeurs ce qu'est le CEPR et les spécificités de votre équipe au sein de cette unité de recherche.
Oui, alors effectivement, notre unité, c'est le Centre de recherche des pathologies respiratoires. C'est un laboratoire académique qui est composé de 4 équipes. On est situé et basé sur le campus de la faculté de médecine et le CHRU de Bretonneau à Tours. Et il a été créé en 2012, donc conjointement avec l'INSERM et l'Université de Tours. Et depuis cette date, il est dirigé par le docteur Mustapha Sitar. On est à peu près 85 membres avec une composition très diversifiée. On est des chercheurs, des enseignants-chercheurs.
Une large équipe de techniciens et d'ingénieurs, dont Sandrine Le Guélec.
Des cliniciens, ça par contre c'est très important.
Des entreprises privées.
Voilà. Et puis aussi des stagiaires, des doctorants. On va effectivement, grâce à toute cette multidisciplinarité, on essaye de faire avancer la recherche au niveau des pathologies respiratoires.
Donc équipe 3 du CEPR, Virginie Hervé, voudriez-vous rappeler quelles sont les 4 équipes au CEPR et peut-être apporter quelques précisions sur les missions de ce centre d'études des pathologies respiratoires?
Oui, alors les principaux thèmes de recherche de cette unité sont l'immunité antimicrobienne, les mécanismes de l'inflammation, la chimie médicinale et puis aussi donc pour l'équipe 3, les thérapies inhalées pour les maladies respiratoires. Donc on a l'équipe 1 qui en fait a pour titre physiopathologie des infections pulmonaires. Elle est dirigée par le docteur Henry. L'équipe 2, c'est une équipe qui est focalisée sur les enzymes protéolytiques et le ciblage pharmacologique des maladies pulmonaires, dirigée par le docteur Korkmaz. On a aussi l'équipe 4 qui concerne la biologie des cellules T innées et l'immunité pulmonaire et qui est dirigée par le docteur Christophe Paget. Et nous, effectivement, on est une équipe qui s'appelle pharmacocinétique et pharmacodynamie des produits biopharmaceutiques inhalés. Et elle est co-dirigée par le docteur Nathalie Ozevourche et le docteur Laurent Plantier. Donc on est plutôt une équipe, contrairement aux trois autres, qui a vocation technologique. Et elle s'intéresse, comme vous l'avez compris maintenant, à l'administration des médicaments par voie inhalée. Et elle est vraiment reconnue comme un des principaux leaders européens dans le domaine de la médecine translationnelle respiratoire, et notamment pour l'administration par inhalation.
Merci à vous, en tout cas, d'être là. Donc on est content à Radio Campus d'avoir des personnes aussi brillantes et reconnues sur notre modeste petite radio. Donc merci de venir vulgariser vos travaux ici. Voudriez-vous nous expliquer en quoi ça consiste justement ces pharmacologies des médicaments inhalés?
Alors moi, je peux vous parler un petit peu de ce que c'est qu'un médicament inhalé. Donc un médicament inhalé, en fait, c'est un médicament que l'on va respirer. Hein, pour faire simple, par exemple, on va partir d'une solution médicamenteuse que l'on va transformer en un système de micro-gouttelettes et qui vont être en suspension dans l'air. Et c'est comme un nuage, en fait. Et donc, les gouttelettes, elles sont de toute petite taille, de quelques micromètres. Et elles vont contenir à l'intérieur de ces gouttelettes le principe actif, le médicament. Et elles sont tellement fines qu'elles vont être transportées par le flux respiratoire du patient. Et donc, ensuite, pouvoir aller se déposer dans le système respiratoire suite à une inhalation par le nez ou par la bouche, et puis rentrer en contact avec les muqueuses et aller directement, en fait, sur la cible pathologique que l'on souhaite traiter. Par le biais de l'inhalation, on cible directement la pathologie et il y a moins d'effets secondaires puisque le médicament ne va pas passer par le sang avant d'aller sur sa cible à traiter qui va du coup être au niveau des poumons. Voilà, donc il existe plusieurs systèmes pour générer ces aérosols. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais au CEPR, on va davantage travailler principalement avec des nébuliseurs, par exemple, ou avec des sprays à visée nasale, et donc qui génèrent des gouttelettes un petit peu plus grosses, mais qui va permettre en fait d'aller faire des traitements de l'entièreté de la sphère ORL et pulmonaire. Donc en fait, on va pouvoir aller déposer les médicaments au niveau de l'arbre respiratoire, que du nez jusqu'aux bronches. Et puis ensuite, on va étudier en fait l'interaction de ces médicaments avec la muqueuse. Et là, c'est plutôt la partie pharmacologie de la thématique de l'équipe.
Alors peut-être quelques questions quand même pour nos auditeurs. Là, vous avez parlé d'un spray, donc c'est un petit flacon qu'on se met dans une narine et on appuie pour envoyer le médicament dans le nez. Et du coup, le nébuliseur, c'est quoi? C'est le masque sur la figure? Est-ce que vous voulez nous préciser ça?
Alors le nébuliseur, c'est oui. Alors on peut avoir l'image en fait du système avec le masque. Donc ça peut être soit un masque, soit un embout buccal. Donc en fait c'est un dispositif où on va aller injecter le médicament dedans et ensuite vous allez avoir une action d'une énergie soit pneumatique, soit électronique, soit mécanique qui va ensuite atomiser en fait la solution de médicament et pour la rendre donc inhalable, suffisamment petite pour que les gouttelettes puissent être inspirées par le patient.
Et alors, si on pense aux médicaments pour l'asthme, qui peuvent en spray, ou certains sont en tube rond où on tourne une molette, et il faut aspirer le contenu dedans, ça c'est quoi alors?
C'est exactement ça. Ici, on parlera de dispositifs qu'on appelle des inhalateurs prêts à l'emploi. Donc en fait, il y a plusieurs types de dispositifs. Il y a ces inhalateurs prêts à l'emploi, il y a aussi des nébuliseurs. Donc en fait, en fonction du type de médicament qu'on a besoin d'inhaler, en fonction de la pathologie, du patient, de sa façon dont il va pouvoir prendre son médicament, le médecin prescripteur, il va pouvoir orienter le choix d'un dispositif, d'un médicament. Au sein du CEPR, nous, on va travailler uniquement avec les dispositifs qui permettent de mettre un médicament liquide, puisqu'on va plutôt être sur un travail sur des nouveaux médicaments qui peuvent être des biomédicaments et ces types de nébuliseurs que vont utiliser pour pouvoir mettre le médicament liquide dedans vont nous permettre en fait de travailler avec des volumes plus importants et puis des formulations particulières et des dosages spécifiques.
Virginie Hervé, vous voudriez quand même préciser plus de choses sur la façon dont votre équipe travaille avec ces dispositifs. Quels sont les axes de travail de votre équipe 3?
Alors l'équipe 3, en fait, a différents axes de recherche. Il y a différentes missions. En fait, une des missions, comme Sandrine l'a si bien expliqué, ça va être de développer, de caractériser des dispositifs en lien avec les médicaments utilisés pour qu'ils soient possiblement administrés par inhalation. Pour cela, il y a aussi tout un gros travail de formulation pour que justement ça soit bien adapté à chaque dispositif. Donc il y a vraiment aussi une caractérisation et un développement au niveau des formulations pour que les médicaments soient stables et puis restent efficaces. On a aussi toute une étude quand c'est le développement d'un médicament pour caractériser sa pharmacocinétique, sa pharmacodynamie et être sûr qu'on puisse avoir les effets escomptés une fois en passage clinique. On est aussi, par rapport à toutes ces études, on développe de nouveaux modèles pour passer plus facilement à la clinique et faciliter cette transposition en clinique. Une autre mission, c'est aussi de collecter en fait, des échantillons biologiques humains pour faire et réaliser ces tests avant de passer à la clinique et s'assurer de l'efficacité des médicaments et des dispositifs qu'on a utilisés. Et on procède aussi, une fois qu'il y a un médicament qui a passé tout cet aspect préclinique et accepté de passer en essai clinique, eh bien, une des missions de l'équipe, c'est aussi de réaliser ces essais cliniques avec la collaboration et l'insertion, de toute façon, du CHRU de Tours dans nos missions.
Donc une équipe pluridisciplinaire avec différents profils, vous venez de le rappeler. En quoi consistent vos missions, les uns et les autres ?
Donc moi, je suis maître de conférence effectivement à l'Université de Tours. Je suis en fait enseignant-chercheur. Donc ma mission au niveau de la recherche, ça va être effectivement de pouvoir ici dans l'équipe 3 développer un axe sur les nouveaux modèles d'études pour les produits inhalés.
Alors je peux continuer si vous voulez. Donc moi, c'est donc Sandrine Le Guélec. Alors comme Mélissa l'a précisé au tout début, donc je travaille particulièrement moi dans une entreprise qui s'appelle DTF Médical. Donc c'est une PME française qui est localisée à Saint-Étienne et qui conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs médicaux et en particulier des appareils d'aérosol thérapie, donc qui sont donc utilisés à domicile par les patients qui ont besoin de traiter leur maladie pulmonaire et qui auront besoin du coup de prendre un traitement par aérosol, un traitement qui sera donc inhalé. Et donc moi en particulier, je mène des activités de recherche et développement au sein du service R&D de cette entreprise et aussi en support avec d'autres services réglementaires, marketing, commerce. On travaille depuis plus de 20 ans en partenariat avec l'Université de Tours sur cet univers d'aérosol thérapie. Alors comment ? Donc moi, je suis donc rattachée à l'équipe 3 de l'unité INSERM. Et puis, j'utilise le plateau technique aérosol thérapie de métrologie aérosol donc, de l'équipe 3. Et pas que, je profite également des ressources et un environnement de travail scientifique, académique, clinique, qui est vraiment propice à l'émergence de projets collaboratifs et donc qui va au sein de cette structure finalement privée-publique que j'appelle Aérodrug. Et donc en contrepartie de l'accès à cet environnement, je donne du temps de travail, donc 30% de mes heures de travail à des thématiques de l'équipe. Sur des sujets purement académiques et en particulier, par exemple, le co-encadrement de la thèse de Mike.
Donc, en effet, je suis doctorant au CEPR. Je suis encadré par Sandrine Le Guélec et Virginie Hervé au sein de l'équipe. En fait, le laboratoire a obtenu une bourse d'études pour le projet qu'on va vous présenter après. Et donc, en fait, ils m'ont choisi pour que je puisse poursuivre mes études et obtenir mon diplôme de doctorant à la fin de 3 années de travail acharné.
Nos invités nous proposent aussi de la musique. Donc on va écouter le choix de Mike Pastor. Alors qu'est-ce que vous voudriez nous faire écouter ?
Born for One Thing de Gojira pour mettre en valeur le métal français.
Voilà, vive le métal français. A tout de suite dans La Méridienne sur Radio Campus Tours.
Thank you.
Bien, merci à nos invités pour ce choix musical. Donc, vous venez d'écouter Gojira et vive le métal français. Donc, nos invités nous emmènent découvrir l'un des axes de recherche de leur équipe 3 au CEPR, c'est-à-dire le développement de modèles d'études pour les traitements inhalés. Alors, il s'agit de proposer aux équipes ou laboratoires et entreprises publiques ou privées qui développent de nouveaux médicaments pour une administration par voie nasale de pouvoir tester pour s'assurer de leur efficacité, de leur innocuité avant le passage aux essais cliniques et leur mise sur le marché. C'est qu'avant d'être vendu dans une officine ou administré en milieu hospitalier, un médicament doit passer plusieurs étapes de validation. Alors peut-être, Virginie Hervé, que voudriez nous en dire plus sur ces différentes étapes.
Alors oui, je vais vous rappeler en fait qu'avant effectivement qu'on puisse acheter un médicament à la pharmacie, il y a vraiment énormément d'étapes qui doivent être validées et ça prend des dizaines d'années pour certains. Donc on a d'abord, il faut découvrir le médicament. Voilà, une nouvelle substance, une nouvelle formule. Et ensuite, alors ça déjà, selon les laboratoires, ça peut aller de 1 à 3 ans pour justement découvrir une nouvelle molécule. Et puis ensuite, une fois qu'on a cette molécule, il faut la tester. Alors, il y a deux phases. Une phase avec le terme que vous appelez préclinique, qui permet en fait d'évaluer la molécule, notamment sur cellules en culture ou même chez l'animal. Et ces études précliniques, elles sont très très importantes parce qu'elles vont effectivement nous donner des résultats au niveau de la pharmacologie, au niveau de la pharmacocinétique, au niveau aussi de la toxicologie de cette molécule. Donc en gros, on va étudier son mécanisme d'action, la façon dont elle est distribuée dans l'organisme, la façon dont elle va aussi être éliminée par l'organisme. S'il y a justement le composé et a vraiment un effet bénéfique ou s'il va être toxique. Donc ça, c'est très important. Et une fois que tout ça a été testé sur différentes catégories de modèles cellulaires, on en parlera par la suite, eh bien, on doit passer normalement à de l'expérimentation animale où effectivement la molécule est testée chez les animaux, même si il faut quand même le noter, depuis les années 80, il y a eu une baisse très très importante justement du recours aux animaux afin et aussi pour améliorer leurs conditions de traitement pour justement le développement des médicaments. Et il y a de plus en plus justement de nouveaux modèles et c'est là-dessus justement que nous travaillons pour justement ne pas avoir recours systématiquement aux animaux et pour avoir des résultats sur justement l'effet de ces nouvelles molécules au niveau des études. Et puis ensuite, une fois que justement eh bien, les molécules ont passé cette phase de préclinique, alors seulement elles peuvent être admises en phase clinique, donc passer chez l'homme. Dans ce cas-là, rapidement, en fait, je vais vous dire, il y a trois phases en clinique. D'abord, une phase où on teste la molécule chez un petit échantillon de personnes saines. Puis ensuite, un petit échantillon de personnes qui vont être atteintes de certaines pathologies. Et ensuite, un essai sur un plus grand nombre de malades, si à chaque fois les phases ont été concluantes. Et ensuite, on a le droit, à, justement, si tout a été validé, à une autorisation de mise sur le marché. Après, il y a quand même une phase de surveillance qui est très très importante, où effectivement, eh bien, il y a récupération de toutes les données avec les effets secondaires, peut-être qui n'avaient pas été notés jusque-là. Donc nous, ce qui nous intéresse vraiment dans l'équipe 3, dans notre axe, c'est de développer justement eh bien, des nouveaux modèles d'études qui ne n'utilisent pas les animaux pour justement avoir eh bien, des résultats au niveau de l'efficacité de la molécule et au niveau, je dirais, de sa pharmacologie et de sa pharmacodynamie également.
Peut-être qu'on peut aussi préciser, alors pardon pour la question bête, hein, mais j'ose, que d'un point de vue anatomique, un animal est quand même pas si proche que ça d'un animal humain. Ça peut poser problème.
Tout aussi. À fait. Et c'est pour ça justement qu'on développe ces nouveaux modèles. C'est-à-dire que pour nous, tout ce qui est justement inhalation, eh bien, effectivement, l'homme et l'animal sont quand même au niveau justement de la cavité nasale. C'est absolument différent. Et donc, la transition, quand on peut passer effectivement des modèles précliniques à la clinique, si on prend les modèles animaux, par exemple, bah, vous voyez bien que le nez d'une petite souris ne va pas être du tout la même, construit de la même façon que notre nez à nous. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de modèles d'études très spécifiques. Et c'est ça que l'on utilise justement au sein de l'équipe 3.
Et j'ajoute aussi qu'il y a peut-être une dimension éthique hein, que vous avez évoquée. Alors, on entend parfois parler des 3 R, réduire, remplacer et raffiner. Est-ce que votre travail est en accord avec ces 3 R ?
Tout à fait. On arrive justement dans... alors, on arrive dans le remplacement, dans le R qui est le remplacement, puisque de plus en plus, on va avoir justement, comme je vous l'ai dit depuis les quelques décennies, on essaye justement de pouvoir avoir d'autres solutions que l'expérimentation animale quand c'est possible, pour pouvoir développer justement cette phase préclinique. Et par exemple, on va avoir l'utilisation de logiciels, on va avoir l'utilisation justement de modèles cellulaires ou ce qu'on va vous développer justement plus tard, là dans l'émission, justement de nouveaux modèles qui vont permettre justement ce remplacement des animaux, en tout cas pour une partie de la phase préclinique.
Eh bien alors, quelles sont les spécificités, les avantages de ces autres modèles ?
Alors, au sein de l'équipe 3, effectivement, on a plusieurs modèles d'études pour cette phase préclinique. On va avoir un modèle de cavité nasale en 3 dimensions, de cavité nasale humaine, hein, je précise. On va avoir ensuite l'utilisation aussi de cellules, que ce soit des cultures de cellules en 2 dimensions ou des sculptures de cellules qu'on appelle en 3 dimensions. Et puis, il y a aussi, depuis quelques années maintenant aussi, il y a le développement de ce qu'on appelle organ and chip. Nous, c'est ce qu'on souhaite développer justement aussi au CEPR. Et ça, je vais laisser la parole à Mike Pasteur qui va vous expliquer tous ces modèles d'études.
Et tout ça, ce sera après une seconde pause musicale. Alors cette fois-ci, eh bien, nous allons écouter en nouveau le choix d'un de nos invités. On va écouter le choix de Sandrine Le Guélec. Alors que voulez-vous nous faire écouter ?
Eh bien, on va écouter Happy.
Pharrell Williams dans La Méridienne sur Radio Campus Tours. Et on se retrouve tout de suite après dans cette émission avec l'équipe 3 du CEPR. À tout de suite. Bring me Nous voici de retour sur le 99.5 FM Radio Campus Tours, c'est la Méridienne, et nous venons d'écouter Pharrell Williams. Alors, penchons-nous à présent sur justement ces modèles sur lesquels travaille l'équipe 3 du CEPR. Alors, voudriez-vous nous en dire plus ?
Oui, alors, comme on l'a évoqué précédemment, on a des modèles qui se rapprochent beaucoup plus de l'humain, voire qui miment l'humain, de façon à étudier les médicaments inhalés de manière plus pertinente. Alors, par exemple, on a le modèle qu'on appelle in vitro, qui est le cast nasal. Donc, en fait, c'est une impression 3D. Donc, on utilise cette technologie qui est maintenant plus si nouvelle. De l'impression 3D, on va reprendre des scans de crâne de patients et on va pouvoir en fait resegmenter, redécouper la cavité nasale pour l'imprimer en 3D. Lorsqu'on l'obtient, cette cavité nasale en 3D, on va pouvoir simuler des dépôts de médicaments avec les mêmes dispositifs que le patient pourra utiliser plus tard. Et de cette façon, on va essayer de se rapprocher au plus proche de la réalité du dépôt du médicament dans la cavité nasale et essayer d'analyser, d'optimiser en fait les dépôts et la formulation vis-à-vis de la quantité réelle qui atteint telle ou telle cible thérapeutique d'intérêt. Avec les castes, donc on va pouvoir simuler le dépôt du médicament, que ce soit dans les sinus, dans les fentes olfactives, là où il y a les récepteurs qui permettent de sentir les odeurs, le nasopharynx, qui est plus en postérieur de la cavité nasale, et puis même le simuler après le dépôt qu'il peut y avoir dans les poumons, les voies respiratoires à base de manière générale. Donc ce modèle, il est pertinent d'un point de vue anatomique. Maintenant, d'un point de vue biologique, c'est de la résine d'impression 3D. Donc on n'a aucune information sur le comportement de la molécule sur les cellules du corps humain, notamment les cellules de la muqueuse nasale. C'est pour ça qu'en fait, on a aussi des modèles in vitro biologiques. On va mettre en culture, amplifier et maintenir en vie des cellules. Classiquement, ce qui est utilisé depuis des décennies en laboratoire sont les cellules de lignée. Donc en fait, c'est des cellules qui ont été immortalisées, par exemple des cellules cancéreuses, qui sont cultivées assez aisément, qui s'amplifient très très bien, très très vite, qu'on connaît bien, et sur lesquelles on va pouvoir faire des tests de dépôt de médicaments et voir le comportement du médicament et de la cellule quand ils sont en contact. Mais en fait, ces cellules-là présentent quand même beaucoup de défauts. Certes, elles sont faciles d'utilisation, mais elles ne sont absolument pas dans l'environnement du corps humain. Elles sont dans un environnement de laboratoire. Si par exemple, on se base sur la muqueuse nasale, elle est au contact de l'air. Les cellules de lignée, souvent, elles sont dans du liquide. Donc déjà, on ne peut pas simuler le dépôt d'aérosol correctement dans cette configuration-là. Et si on les met en contact de l'air, elles ne vont pas mimer la barrière de la muqueuse nasale. En fait. Et donc nous, au CEPR, on a mis en place une culture de cellules dites primaires et non de lignées. Et ces cellules primaires, en fait, sont issues directement de la cavité nasale de certains patients qui sont opérés à l'hôpital Bretonneau de Tours. Et donc ça, c'est une collaboration qu'on a et cette interaction avec l'hôpital qui est très, très importante pour la pertinence de nos recherches. Et donc ces cellules primaires, on va les remettre en culture. Alors nous, on dit à l'interface air liquide, en ALI, et cette interface ALI, elle va permettre de mimer le dépôt d'aérosol sur des cellules qui sont au contact de l'air, d'un côté, et de l'autre côté, en contact du milieu nutritif qui va mimer finalement le réseau sanguin. Et donc avec ces cellules-là, on va pouvoir observer un comportement déjà beaucoup plus réaliste, et donc améliorer la procédure de développement des médicaments et de sa formulation. Malheureusement, on est encore à mi-chemin finalement entre les études de laboratoire vraiment hors contexte et le vrai corps humain, le vrai organe dans son environnement. Et c'est pourquoi on s'oriente depuis quelques années vers l'organe surplus, l'organe chip en anglais. Et l'organe surplus, lui, va permettre de réutiliser ses cellules primaires, donc ses cellules pertinentes, mais dans un environnement et un micro-environnement similaire à celui de la cavité nasale chez l'homme. On va pouvoir mimer le flux sanguin, on va pouvoir mimer le flux de la respiration dans la cavité nasale, on va pouvoir mimer la température, toutes les bonnes conditions finalement, l'humidité, et se remettre dans l'environnement le plus pertinent pour tester les médicaments. On espère, en fait, avec cette nouvelle technologie qui a émergé dans les années 2010, diminuer en fait le temps de développement d'un médicament que Virginia a évoqué tout à l'heure, qui est très très long. Et on estime par exemple que pour développer un médicament, il faut en avoir testé 10 000 avant de pouvoir commercialiser. Et donc, en fait, on espère, avec cette technologie-là, réduire très largement ces coûts et ce temps.
J'aimerais savoir comment on fait sur ces organes on-chip, comment on fait pour mimer la température et le flux sanguin. Est-ce qu'on utilise du vrai sang? Comment ça marche?
Non, on n'utilise pas du vrai sang parce qu'il y a des propriétés beaucoup trop complexes et visqueuses. C'est pas très confortable pour nous pour travailler. Mais en fait, on va pouvoir utiliser la technologie de la microfluidique. Donc, c'est vraiment l'étude et le contrôle des fluides à petite échelle. Et avec cette technologie-là, on va pouvoir apporter aux cellules les nutriments nécessaires. Alors, pas le sang, mais on peut s'en rapprocher. Et ces nutriments, ils vont arriver à vitesse de la circulation sanguine. Donc, encore une fois, on reste biomimétique. Pour la température, pour répondre à cette question, on va pouvoir la mimer en fait, parce qu'on a des enceintes qui permettent de garder les cellules en culture qui sont en atmosphère contrôlée. On peut contrôler, par exemple, pour information, la cavité nasale. On dit que le corps humain est à 37 degrés, la cavité nasale, elle, est plutôt à 33 degrés. Et on est capable de régler ce situé sur 33 degrés avec la bonne quantité d'eau dans l'atmosphère et tous ces paramètres.
À quoi ça ressemble en fait? C'est-à-dire que vous avez déjà, ils ont quelle taille vos organes on-chip là, qui miment la cavité nasale? Du coup, ils sont agencés comment? À quoi ça ressemble en fait? Vous avez un énorme ordinateur qui est relié à eux, vous pouvez paramétrer tout. Comment c'est installé?
Eh bien, c'est pas si loin de ça. En fait, on a l'organe on-chip qui peut avoir différentes tailles. En fait, on les fait à façon. Donc, dans tous les laboratoires du monde, chacun a un peu son organe on-chip à lui, sa structure à lui.
Tant que le brevet n'est pas sorti, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit et de diffuser quoi que ce soit.
Alors, question sur ces fameux modèles cellulaires en 2D et 3D. Est-ce qu'on peut dire que le modèle en 3D est plus proche du in vivo que le modèle en 2D?
Eh bien, oui, il est beaucoup plus proche. En fait, on va retrouver la composition cellulaire exacte de ce qu'on retrouve finalement dans la cavité nasale chez l'homme. Lorsqu'on travaille en 2D, on ne va pas avoir ce qu'on appelle la différenciation, c'est-à-dire que ce sont des cellules qui vont toutes rester identiques parce qu'elles sont toutes dans les mêmes conditions. Et lorsqu'on travaille en 3D, les cellules qui seront à l'interface air-liquide ne vont pas toutes avoir la même position par rapport à l'air, par rapport aux nutriments. Et elles vont chacune adopter donc la différenciation et chacune avoir leur rôle. Et en fait, on va retrouver tous les différents rôles comme dans la réalité.
Alors, est-ce que ces deux modèles ont chacun des avantages et des inconvénients? Est-ce qu'ils ont des utilisations précises? Ou est-ce que les modèles 2D vont finir par être abandonnés?
Alors, les modèles 2D, ils ont quand même le sacré avantage d'être faciles d'utilisation, connus depuis très longtemps, et très rapides à mettre en place. Pour donner un ordre d'idée, le modèle 2D, on peut le mettre en place en une semaine. Le modèle 3D, il va falloir attendre entre 2 et 3 mois.
Alors, et si je peux compléter, en fait, les modèles 2D nous servent surtout de débroussaillage, en fait, quand on veut tester les molécules. On sait qu'on va les tester d'abord sur ces modèles 2D pour être sûr que l'efficacité, elle est bonne, qu'il n'y a pas de toxicité. Et une fois qu'effectivement, on a déjà ces résultats-là sur 2D, comme le 3D, en fait, est, comme le disait Mike, plus complexe et aussi donc plus coûteux, eh bien, ça nous permet de uniquement se focaliser sur les molécules qui ont marché en 2D et ensuite passer en 3D.
Et d'ailleurs, ces fameux modèles 2D et 3D, est-ce que vous les fabriquez vous-même ou est-ce que ça s'achète, disons, tout fait?
Alors, il y a des entreprises qui commercialisent des appareils et des modèles déjà prêts à l'emploi. Nous, de notre côté, on les fait nous-mêmes parce qu'on a nos banques de cellules et comme je disais tout à l'heure, on a aussi notre partenariat avec l'hôpital Bretonneau qui nous permet d'obtenir des cellules directement chez le patient.
Et donc ça, quand même, on peut préciser aux auditeurs, parce que la fiction n'est jamais loin, que évidemment les patients sont prévenus et d'accord pour ces prélèvements de cellules.
Alors oui, là, je peux compléter. En fait, c'est fait en... C'est ce qu'on appelle un RIPH. Alors, RIPH, c'est tout simplement parce que, bien sûr, on a déposé une demande. Ce sont pour justement réaliser une recherche organisée et pratiquée sur des personnes volontaires. Alors, ça peut être des personnes saines ou des personnes malades. Ça dépend, en fait, de je dirais, après de la recherche que l'on souhaite mener sur les cellules. Et en fait, par contre, ce sont des recherches qui nécessitent d'abord un dépôt de dossier. C'est justement reçu, c'est évalué. Et quand ça a été, on va dire, accepté, en fait, par une commission, eh bien là, on va pouvoir avoir la possibilité, via des chirurgiens, eh bien, de demander à des patients s'ils veulent faire partie de l'étude. Et dans ce cas-là, si le patient accepte, eh bien, lors de la chirurgie, par exemple, là, ce sont des chirurgies, évidemment, nasales, eh bien, il va y avoir un petit grattage au niveau de la cavité nasale pour récupérer quelques petites cellules, voilà, qui sont ensuite envoyées au laboratoire pour être mises en culture.
Ça rappelle l'épisode de la Covid, avec le goupillon Covid, c'est le même procédé?
Alors, non, pas tout à fait. Les couvillons...
C'est pire?
C'est comme... Non, c'est pas pire non plus. Les couvillons, en fait, c'est juste comme un coton-tige. Tout le monde s'en souvient, malheureusement. Là, ça fait plus comme une petite brossette, parce que le coton-tige, en fait, ça fait comme une brosse à dents miniature, on va dire. Voilà, ça frotte un tout petit peu, parce qu'autrement, avec les couvillons, en fait, on ne récupérerait pas assez de cellules pour pouvoir les mettre en culture.
Ah, j'en tremble d'effroi. J'imagine que vous prélevez aussi des volontaires sains pour faire un comparatif ou pas dans ces études?
Alors, en fait, ça dépend.
Pour le moment, nous, on n'a que des volontaires sains en termes de muqueuse nasale. Ils sont opérés pour d'autres raisons, plutôt anatomiques. Après, effectivement, c'est aussi tout l'avantage de la culture en 3D complexe, c'est qu'on va pouvoir utiliser des cellules de patients qui sont, eux, atteints d'une pathologie, qu'on va pouvoir spécifiquement étudier, isoler au laboratoire.
Voilà, donc c'est-à-dire que vous avez aussi, disons, un modèle en 2D ou en 3D qui est, je sais pas comment on dit, test, enfin qui est le modèle zéro, où vous ne mettez pas de produit, ou qui est un modèle sur volontaire sain pour que vous puissiez comparer.
Exactement.
D'accord. C'est-à-dire que quand vous faites une étude, vous ne pouvez pas avoir qu'une seule boîte, en fait. Vous êtes obligé d'en avoir plusieurs, sinon le résultat est nul, parce que vous ne pouvez pas le comparer avec autre chose.
Exactement, c'est la démarche scientifique. On doit toujours avoir, dans des conditions semblables, très très similaires, des cellules qui vont avoir subi rien, et des cellules qui vont avoir subi le médicament, par exemple, ou la stimulation. On va pouvoir aussi comparer toutes ces cellules qui ont subi soit rien, soit la stimulation de patients sains versus de patients infectés, de patients avec une pathologie sous-jacente. Ce qui permet, en fait, après, de vraiment pouvoir sortir une seule variable de chaque expérimentation pour pouvoir s'assurer que c'est cette variable qui est responsable des variations qu'on observe.
Et de toute manière, on est obligé, en fait, de répéter nos expériences un certain nombre de fois, parce que ensuite, on doit réaliser, nous, des tests statistiques qui doivent être robustes pour montrer qu'il y a bien un effet de la molécule comme on l'attendait, mais qui est statistiquement vérifié. Si on n'a pas justement cette robustesse au niveau des tests statistiques, en fait, on ne peut absolument pas dire qu'il y a eu un effet ou pas de la molécule.
Si on veut, disons, étendre ça à un autre domaine pour bien comprendre, c'est comme si, s'il n'y avait pas ces différents modèles, c'est comme si on déduisait les Allemands sont mal polis, parce que j'en ai rencontré une fois qu'ils l'étaient. Donc du coup, c'est le même principe.
C'est exactement ça.
Voilà. Pardon pour les Allemands qui nous écouteraient, hein, c'était pour l'exemple. On peut dire les Belges si vous voulez. Merci à vous. Et donc, il était question aussi de cellules d'un patient ou d'une patiente. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ces modèles-là, 2D et 3D, on peut aboutir à, disons, des traitements sur mesure?
Il y a deux choses, en fait. Il y a soit le modèle 3D, ce dont on parlait, le modèle 3D où c'était issu d'un patient, en fait, c'est le modèle imprimé en 3D, sans cellules.
Oui, mais ça revient au même, en fait. Oui. Que ça soit les modèles 2D, 3D, cellules, ou le modèle de cavité nasale, au final, en fait, on vient...
C'est le même problème.
C'est le même problème, en fait. Non, on vient d'un patient. Alors, effectivement, oui, on peut dire que si on prend parti du fait d'utiliser qu'un seul patient, là, on va pouvoir aussi adapter le traitement par rapport à ce patient-là. Et ça, ça se fait, hein, en modèle de cavité nasale, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. On va faire autant de modèles de cavité nasale que de patients. Oh. Donc, il y a cette partie-là. Donc, effectivement, ça revient à ta question sur la médecine personnalisée. Et on y vient forcément.
Et ça, oui.
Non, mais on peut faire...
Et il y a aussi la problématique de faire tout un tas de tests cellules et de tests à partir d'un seul... de données qui viendraient, enfin d'un modèle qui serait issu d'un seul patient. Et là, ça pose un vrai problème de variabilité. On n'est pas dans la médecine personnalisée, mais par contre, presque. On est dans le fait qu'il faut que nous, si on veut que ça soit un vrai modèle d'étude représentatif, il faut absolument intégrer une variable individuelle.
Radio Campus Tours.
Et les chirurgiens sont parmi les professions les moins aimables qui soient.
Alors si certains nous entendent et souhaitent revenir dans une émission pour nous dire que c'est faux ou que c'est totalement vrai, n'hésitez pas. Hein.
Radio Campus Tours.
Je vous promets que je vais faire une étude anthropologique poussée pour voir si je viens de dire une bêtise ou pas.
99.5 FM.
Bon, vous reviendrez pour en parler alors dans une prochaine méridienne.
RadioCampusTours.com.
Et peut-être pour revenir sur ces organes on-chip. Alors, est-ce qu'on peut imaginer connecter plusieurs organes? Parce que là, il est question des cavités nasales, mais si on veut, par exemple, dire j'ai la cavité nasale, j'aimerais faire un organe on-chip de poumon plus un de cœur, est-ce que c'est possible de dire comme ça, je peux voir comment mon futur traitement va agir chez un patient dans sa cavité nasale, puis dans ses poumons et sur le cœur? Est-ce que c'est possible?
Bien sûr, il y a des études déjà qui le font. On appelle plus ça l'organe sur puce, mais l'homme sur puce. On est capable en fait de connecter, grâce à la microfluidique toujours, différents organes on-chip entre eux et de regarder la toxicologie d'un médicament lorsqu'on le dépose sur un organe, donc par exemple le médicament en aérosol sur un organe on-chip de poumon, et de regarder sur un organe on-chip qui est connecté de rein la toxicité du médicament. On va pouvoir regarder en fait sa dégradation, comment il est métabolisé par l'organisme, et donc toute son efficacité, sa toxicité. Et pour aller plus loin et pour rester au niveau de la cavité nasale, elle a une muqueuse respiratoire, qui est la principale muqueuse, mais on a aussi la muqueuse olfactive. Là, on a les neurones capables de détecter les odeurs. Et donc, c'est une muqueuse tout à fait différente, et on est capable, en théorie, de connecter aussi ces différentes muqueuses au sein même d'un même organe.
Donc, par curiosité, où sont fabriqués ces organes sur puce? Peut-être que là, vous ne les fabriquez pas vous-même, quand même.
Alors, il y a effectivement des entreprises qui sont capables de les fabriquer, de les commercialiser. Ils essayent aussi même de les standardiser, parce que, comme je disais tout à l'heure, à l'heure actuelle, c'est dans les laboratoires, de manière générale, on peut faire chacun notre bricolage. On va utiliser ce qu'on appelle le PDMS, c'est un polymère qui est transparent, biocompatible, qu'on va pouvoir... largement faire à façon pour adapter à nos besoins. Mais du coup, ce qui crée un problème de standardisation, on n'est pas tous capables du coup de comparer nos résultats, et il y a cet avantage quand même des entreprises qui font des organes on-chip standardisés.
Donc là, en fait, je crois que les travaux étant en cours, vous ne pouvez pas donner plus d'informations sur les travaux que vous menez à l'hôpital.
Et effectivement, en fait, lorsqu'on est en train de faire nos études et qu'on n'a pas encore publié officiellement les résultats, on ne peut pas communiquer dessus.
Voilà, donc c'est pas que les chercheurs ne veulent pas donner des informations qui font de la rétention, c'est qu'en fait vous êtes tenus de ne pas révéler certaines choses sur des recherches qui n'ont pas été publiées. Je pense que c'est important de le préciser quand même aux auditeurs. Peut-être que vous voulez dire quelque chose sur la variabilité de tous ces modèles.
Alors oui, en effet, j'évoquais tout à l'heure, par exemple, pour les nasal casts, qu'on imprime un scan de patient en 3D pour faire des études de dépôt. Et en fait, l'anatomie de la cavité nasale entre chaque individu est extrêmement variable. En fait, c'est un peu comme les empreintes digitales. On est à peu près sûr que celle de votre voisin ne sera pas du tout la même. Et donc, ça fait un biais dans les études, finalement, quand on étudie les dépôts de plusieurs médicaments dans une seule anatomie. Alors nous, on a sorti une publication l'année dernière à ce sujet-là. On a étudié la variabilité anatomique de la cavité nasale sur une centaine de patients, toujours à l'hôpital Bretonneau. Et on a imprimé les trois plus représentatifs et on a regardé si effectivement le dépôt de médicaments au sein de ces trois modèles était différent. Et c'est le cas.
Merci. Et où est-ce qu'on peut trouver cet article?
Alors, l'article est paru dans International Journal of Pharmaceutics. Il est dans la revue Elsevier.
Voilà, qu'on puisse mettre aussi le lien avec ce podcast, hein, parce que oui, auditeurs, auditrices, vous trouverez les liens vers tout ce qui a été évoqué en allant réécouter à volonté le podcast de cette émission. Alors, on en sait plus sur les modèles que vous développez dans votre équipe 3. Est-ce qu'on peut dire que la médecine tend à aller vers quelque chose de spécialisé, vers une médecine spécialisée, personnalisée, adaptée à chaque patient ?
Eh bien, en fait, oui. Par exemple, c'est le cas pour les nasal casts. Il y a des études qui sont parues, qui scannent le crâne de différents patients, qui les impriment en 3D, qui font les études de dépôt et qui reviennent vers ces patients-là pour refaire les dépôts de thérapeutiques. C'est aussi le cas au niveau cellulaire. On peut prélever la muqueuse pathologique du patient, la remettre en culture, faire des tests et revenir vers le patient lorsqu'on a trouvé le bon traitement. Mais aujourd'hui, c'est encore quelque chose de coûteux, de long à mettre en place et qui ne répond pas forcément encore à toutes les situations, notamment les situations d'urgence.
Quitte à créer un modèle 3D biomimétique reproduisant l'anatomie et favorisant l'environnement biologique de la cavité nasale humaine, est-ce qu'on ne pourrait pas recréer de toutes pièces des organes ou des tissus pour les remplacer directement chez des patients ?
Alors, dans la réalité, ce qui s'en rapproche le plus, c'est la bioimpression 3D qui permet en fait, grossièrement par le même mécanisme de l'impression 3D aujourd'hui, de reproduire une partie d'organes en 3D. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on soit capable de faire des organes fonctionnels. On peut penser à la peau, qui est le plus facile et qui est le plus accessible à l'heure actuelle, mais pour les organes plus complexes, pour l'instant, c'est de la science-fiction.
C'est bien la science-fiction. Venez aux Utopias, à Nantes. Pour le moment, en tout cas, c'est de la science-fiction. Mais bon, pour en revenir aux aérosols, parce qu'il ne faut pas les oublier, est-ce qu'ils peuvent avoir d'autres utilisations que le traitement des pathologies, disons, respiratoires ?
Eh bien, oui, et notamment grâce à la cavité nasale. En fait, la cavité nasale, c'est une porte d'entrée vers les poumons, bien sûr, mais c'est aussi une porte d'entrée vers le cerveau, via l'épithélium olfactif. C'est aussi une porte d'entrée vers le cœur. Et donc, en fait, on va pouvoir traiter via les aérosols, par voie intranasale, des pathologies cardiaques ou des pathologies du système nerveux central.
Et pour compléter, il y a aussi, en fait, au niveau de notre cavité nasale, on a aussi, en fait, des petites zones où on a des cellules de nos systèmes immunitaires qui vont faire qu'on va pouvoir aussi utiliser cette voie inhalée pour, par exemple, permettre l'administration de vaccins.
D'ailleurs, on avait reçu dans la Méridienne le professeur Dimier Poisson.
Tout à fait.
Voilà, donc ça, ce vaccin contre la Covid, c'est un exemple.
Exactement.
Là, de vaccins possibles. Et alors, sur l'idée donc, des vaccins, disons, pour les maladies, disons, ORL, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et vous avez évoqué la proximité avec le cerveau, donc on peut penser à quelle maladie, en fait, la migraine, qu'est-ce que ça peut être ?
Eh bien, exactement, il y a la migraine, il y a l'Alzheimer, Parkinson, et puis les maladies neurodégénératives.
Et donc là, peut-être que cette voie d'administration, elle a aussi certains avantages pour certains patients, parce qu'elle est plus facile pour être administrée, du coup, elle n'est pas douloureuse, donc ça peut être aussi intéressant.
Oui, ça, c'est peut-être un point sur lequel on n'a pas assez insisté, c'est que c'est vraiment une voie non-invasive. Et puis, comme on le disait aussi, on va beaucoup, beaucoup limiter les effets secondaires par rapport à quelque chose qui va se prendre par voie intraveineuse, par exemple, ou même par voie orale, parce qu'on va tout de suite cibler la zone que l'on souhaite atteindre. Donc, de ce fait, on va avoir une concentration au niveau du principe actif qui va diffuser très rapidement dans la zone que l'on souhaite, alors que si on passe par voie orale ou par voie, par exemple, intraveineuse, on va devoir mettre beaucoup plus de produits pour que, justement, la concentration efficace arrive au bon endroit. Donc, effectivement, cette voie inhalée, elle a vraiment, une importance considérable par rapport au fait qu'on va pouvoir réduire au final la dose de médicaments à envoyer et réduire de ce fait les effets secondaires.
Et alors là, vous évoquez la possibilité de réduire la dose, disons, de principe actif de médicaments qui seraient administrés. Ça me fait penser aussi, par rebond, aux travaux de Nabila Bouatia-Nagy, donc qui est une chercheuse INSERM qui travaille, elle, sur la santé cardiovasculaire des femmes et donc qui explique que les organismes des femmes ne réagissent pas de la même façon au traitement, aux médicaments que les hommes. Et donc là, de dire, est-ce que cette administration-là, ce type de médicament, pourrait aussi être plus adapté, peut-être aux femmes ?
Alors là, je n'ai pas à ce jour les connaissances nécessaires pour pouvoir répondre. Je sais que la plupart du temps, effectivement, les femmes sont quelquefois plus sensibles à certains traitements de nos hormones. Effectivement, on pourrait, si un nouveau médicament est développé et qu'on voit qu'effectivement la molécule est peut-être avec des efficacités beaucoup plus importantes chez la femme que chez l'homme, peut-être qu'effectivement on pourrait réduire la dose envoyée. Mais encore une fois, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est peut-être par rapport aux travaux que vous précisez, c'était peut-être tout simplement parce que c'était une administration par voie intraveineuse ou par voie en tout cas générale. Et donc le fait d'avoir encore une fois un traitement qui va être juste inhalé, on va peut-être réduire la dose à ce point qu'il y aurait peut-être plus de différence par rapport aux effets secondaires entre les hommes et les femmes.
En tout cas, c'est une question qui existe réellement et qui occupe les différentes équipes de recherche et pas que sur la santé cardiovasculaire.
Tout à fait, c'est sûr.
Merci beaucoup, en tout cas, à vous trois d'être venus dans cette Méridienne. On en sait plus sur le CEPR, sur votre équipe 3 et aussi, rappelons-le, sur les modèles d'études pour les biomédicaments inhalés. Alors peut-être avant de terminer cette émission, on va demander à Mike Pasteur où vous en êtes de votre thèse. C'est quand la soutenance ?
A priori, ça va être en fin d'année, décembre 2025. Et on est dans la rédaction du manuscrit, un pavé.
Et donc là, vous êtes avec les deux personnes qui dirigent votre thèse. Donc,
et qui vont la corriger.
Donc là, vous êtes prêtes l'une et l'autre à lire le pavé.
C'est ça, oui. Mais on a de la chance, il y a déjà une très bonne rédaction.
Voilà. Comment ça se passe alors, un accompagnement de thèse ? Comment on devient accompagnateur, directeur de thèse ? Comment ça marche ?
Eh ben pour moi, j'ai pris sur le tas. J'ai pris vraiment plaisir. Enfin, c'est pas fini d'ailleurs, hein, mais je trouve que c'est très challenging, ça c'est sûr. Et puis, je pense que c'est une bonne. On a une bonne équipe. On a chacun apporté ses expertises sur le sujet de thèse. Et c'est vrai que le sujet de thèse de Mike est quand même très. Avec deux grosses expertises qu'on a réussi à mettre ensemble pour arriver jusqu'au modèle, jusqu'au développement de ce modèle. Et voilà, moi j'ai vraiment pris un super plaisir en fait à travailler aux côtés de Mike. C'est un super thésard.
Oui, je crois que là je rebondis sur ce que dit Sandrine. On a beaucoup de chance d'avoir un thésard qui est vraiment qui a énormément de qualité. L'accompagnement se fait j'allais pas dire au quotidien, mais nous avec Sandrine on a opté pour faire en sorte que l'accompagnement soit très humain d'abord, et puis au niveau scientifique effectivement on a des expertises qui sont complémentaires, et au sein de l'équipe on a plein d'expertises complémentaires sur lesquelles Mike a pu s'appuyer tout au long de sa thèse. Donc c'est pas que nous, oui on est directrice de thèse, mais par contre ça ne serait pas possible sans en fait l'ensemble des gens de l'équipe, parce que à chaque fois que quelqu'un ou même dans les recherches, on se confronte évidemment à des situations où on n'a pas du tout les résultats attendus, le fait de pouvoir en parler avec les collègues, de pouvoir réfléchir, et même au sein des autres équipes, il faut savoir vraiment que le CEPR, on est quatre équipes et on interagit vraiment tout. Enfin, ces quatre équipes, les personnels des quatre équipes interagissent ensemble. Et donc, on a la possibilité justement d'aller voir les autres en disant « là, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Est-ce que toi, ça a fait la même chose sur certains types de cellules, etc. » Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous conforte et qui nous permet aussi de réussir. Le fait, comme je disais, l'interaction avec nos cliniciens permet aussi de pouvoir débattre de certains sujets pour nous orienter vers les bonnes directions. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Et je dirais que l'encadrement de quelqu'un en thèse est plutôt très enrichissant.
Voilà, vive l'intelligence collective. Et puis, Virginie Hervé, on peut préciser aussi qu'en fait d'accompagnement donc d'étudiants plus jeunes, vous enseignez aussi à l'IUT Génie Biologique à Tournord.
Oui, je suis passée très vite lorsque vous m'avez présenté, mais effectivement, en fait, je suis enseignante chercheuse. Et dans ce cadre-là, mes enseignements se focalisent effectivement sur le but. Donc c'est le bachelor universitaire technologique qui est situé à Tours, à Tournord, dans le département génie biologique et plus particulièrement dans le parcours biologie médicale et biotechnologie, où je suis responsable notamment des étudiants en deuxième année. Et donc, où pareil, je vais avoir des expertises en microbiologie, en immunologie et aussi en biologie cellulaire.
Et donc, à partir de ce but-là, de ce BUT, c'est quoi la suite d'études possibles ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à une thèse ?
Normalement, le but, on va avoir 50% de nos étudiants qui choisissent le but parce que, justement, ils veulent une insertion dans la vie active tout de suite après, ce qui est vraiment à l'origine de cette formation, le fait de pouvoir former des étudiants sur un parcours court et qu'ils puissent intégrer très facilement et très rapidement ensuite la vie active et trouver un emploi. Et puis, certains d'entre eux vont effectivement aussi se découvrir durant ces 3 années et vont pouvoir continuer sur des études plus longues. Et c'est le cas effectivement de Mike.
En effet, le but DUT à mon époque donne vraiment les clés pour aller plus loin dans la recherche. Et j'aimerais au passage saluer mes anciens directeurs de stage que j'ai eu pendant le DUT et pendant mon master, Yves Combarnous à INRAE et Antoine Touzé, INRAE également, qui ont été de super motivateurs aussi pour aller plus loin.
Et alors, Sandrine Le Guélec, si on veut devenir ingénieur études et recherches, comment on fait ?
Eh bien, dans mon cas, moi j'ai eu un parcours académique. Donc, alors je ne suis pas passée par la case DUT, mais je suis passée par la fac. Et puis donc j'ai fait un master, tout ce qui va être biochimie. Je me suis spécialisée en microbiologie médicale. Et ensuite, j'ai très vite intégré l'équipe de recherche du CEPR, qui était avant qui s'appelait l'unité 618, avant de s'appeler le CEPR. Et puis j'ai travaillé assez vite sur des modèles cliniques, sur les pathologies respiratoires. Et ensuite, je suis tombée dans les aérosols, où j'ai appris énormément en physique des aérosols. Et donc, je n'ai pas du tout un background physique. Donc, j'ai vraiment un regard, biologique sur l'utilisation des aérosols. Et j'essaye d'apporter, en fait, cette double compétence pour ma société, pour DTF Médical, mais aussi pour l'équipe du CEPR. Et de travailler en techno, moi je trouve ça très très enrichissant. La technique aérosol, la technologie pour les modèles de cavité nasale, pour les simulations respiratoires, je trouve c'est passionnant. En fait, on n'a pas fait le tour de l'aérosol thérapie. Il y a encore beaucoup de choses à faire.
Bon, vous reviendrez dans une autre émission alors. Merci à nouveau à vous trois d'être venus dans cette méridienne. Alors, on va pouvoir se quitter en musique. Je crois que nous n'avons pas écouté encore le choix de Virginie Hervé.
Eh bien, moi, je vais vous demander Queen, I Want to Break Free.
Allez, entendez ça, auditeurs, auditrices. Queen sur Radio Campus Tour pour terminer cette méridienne. Merci à mes invités, merci aussi à Jean-Michel Escoffre qui nous permet de faire ces émissions en partenariat avec l'INSERM Grand Ouest. Merci aussi à Pierre Da Silva, donc podcast à retrouver sur notre site radiocampustour.com, à écouter à volonté, rediffusion aujourd'hui même à 17h et c'est parti pour Queen.
Merci à vous Mélissa.
Merci.
Merci.
But life still goes on. I can't get used to living without you by my side.